Chapitre 18. De la ruine du Beleriand et de la chute de Fingolfin. Or, Fingolfin, roi du Nord et grand roi des Noldor, voyant que son peuple avait gagné en nombre et en force, et que les hommes leurs alliés étaient nombreux et vaillants, commença de méditer un nouvel assaut contre Angband. Car il savait que leur existence était menacée tant que l'encerclement de l'ennemi restait incomplet, et Morgoth libre d'œuvrer dans ses profondes mines, sans que l'on pût savoir quels maléfices il préparait avant qu'il les eût révélés. Ce conseil était sage dans la mesure de ses connaissances, car les Noldor n'avaient pas encore idée de la toute-puissance de Morgoth, ni compris que cette guerre sans assistance était sans espoir ultime, qu'ils l'eussent hâtée ou retardée. Mais comme le pays était beau et leur royaume vaste, la plupart des Noldor se contentaient de cet état de choses, croyant qu'il perdurerait. Et ils étaient peu pressés de donner un assaut où nombre d'entre eux étaient sûrs de trouver la mort, dans la victoire ou la défaite. Aussi étaient-ils peu disposés à entendre Fingolfin et les fils de Fëanor encore moins. Parmi les chefs des Noldor, seuls Angrod et Aignor étaient de l'avis du roi, car ils habitaient des régions où le Thangorodrim s'offrait à la vue et la menace de Morgoth s'imposait à leur esprit. Ainsi, les desseins de Fingolfin n'aboutirent à rien et le pays connut la paix encore un temps. Mais tandis que la sixième génération après Béor et Marak n'avait pas encore atteint l'âge d'homme, en la 455e année depuis la venue de Fingolfin, survint le malheur qu'il avait tant redouté, plus terrible et plus soudain encore que dans ses plus sombres craintes. Car Morgoth avait longtemps fourbi ses armes dans le secret, tandis que sa malignité devenait toujours plus grande et sa haine des Noldor plus amère. Et il n'aspirait plus seulement à perdre ses adversaires, mais aussi à détruire et à souiller les terres qu'ils avaient conquises et rendues si belles. Et il est dit que la haine eut raison de son jugement, de sorte que s'il avait souffert d'attendre un peu plus, jusqu'à ce que ses desseins fussent à maturité, alors les Noldor eussent entièrement péri. Mais de son côté, il estima trop légèrement la valeur des elfes, et pour lors, il ne tint aucun compte des hommes. Il vint une nuit d'hiver sombre et sans lune, et la vaste plaine d'Ardgalen s'étendait grise sous les étoiles glacées, depuis les retranchements des Noldor dans les collines jusqu'au pied du Thangorodrim. Les feux de bivouac avaient baissé et les gardes étaient rares. Sur la plaine, chez les cavaliers du Hithlum, peu de gens veillaient dans les campements. Puis soudain, Morgoth envoya de grandes rivières de feu qui surgirent du Thangorodrim plus rapidement que des balrogs et se déversèrent sur toute la plaine. Et les montagnes de fer vomirent des flammes aux couleurs délétères, dont l'exhalaison empestait l'air et était mortelle. Ainsi périt Ardgalen, et le feu dévora ses herbes, et ce fut dès lors un lieu désolé et calciné, un désert de poussière étouffante, aride et sans vie. Son nom changea désormais, et on l'appela Anfoglith, la poussière de soif. Mains ossements carbonisés y eurent leur tombe à ciel ouvert, car de nombreux Noldor périrent dans ce brasier, rattrapés par les flammes courantes sans pouvoir gagner les collines. Les hauteurs du Dorthonion et des Ered Wethrin continrent ce torrent ardent, mais tous les bois de leur versant tourné vers Angband furent incendiés, et la fumée sema la confusion chez les défenseurs. Ainsi commença la quatrième des grandes batailles, Dagor Bragolac, la bataille de la flamme subite. À l'avant de ces flammes vint Glaurung, le doré, père des dragons, arrivé à pleine stature. Et à sa suite se trouvaient des balrogs, et derrière eux les noires armées des orques en un nombre tel que les Noldor n'en avaient jamais vu ou imaginé jusque-là. Et ils assaillirent les forteresses des Noldor et rompirent le blocus autour d'Angband, massacrant les Noldor et leurs alliés, hommes et elfes gris, partout où ils en trouvaient. Nombre des plus farouches adversaires de Morgoth périrent dans les premiers jours de cette guerre, déroutés, dispersés, incapables de rassembler leurs forces. Dès lors, la guerre ne cessa jamais entièrement en Beleriand, mais l'on considère que la bataille de la flamme subite prit fin à la venue du printemps, quand l'assaut de Morgoth se mit à faiblir. Ainsi se termina le siège d'Angband, et les ennemis de Morgoth se trouvèrent dispersés et isolés les uns des autres. La plupart des elfes gris fuirent vers le sud et abandonnèrent la guerre du Nord. Maint d'entre eux furent reçus au Doriath, et le royaume et la puissance de Fingol s'accrurent durant cette période, car le pouvoir de la reine Méliane était ourdi à ses frontières, et le mal ne pouvait encore pénétrer ce royaume caché. D'autres cherchèrent refuge dans les forteresses des côtes maritimes et à Nargothrond, et d'aucuns fuirent le pays et se cachèrent en Ossiriand, où franchirent les montagnes et errèrent sans feu ni lieu dans les terres sauvages. Et la rumeur de la guerre et de la rupture du siège vint aux oreilles des hommes dans l'est de la terre du milieu. Les fils de Finarfin essuyèrent entre tous le plus fort de l'attaque, et Angrod et Aignor furent tués. Et Bregolas, seigneur de la maison de Beor, et bon nombre de ses guerriers tombèrent à leur côté. Mais Barahir, le frère de Bregolas, combattait plus à l'ouest, non loin de la passe du Sirion. Là, le roi Finrod Felagund, venu du sud en grande hâte, se trouva séparé de son armée et encerclé dans le marais de Selek avec sa garde rapprochée. Et il eût été tué, ou pris, si Barahir n'était venu à son secours avec ses plus braves guerriers, dressant autour de lui un rempart de lances. Et ils se taillèrent un chemin hors de la bataille au prix de lourdes pertes. Ainsi, Felagund s'échappa et retrouva les profondeurs de sa forteresse de Nargothrond. Mais il fit le serment d'une amitié et d'un secours indéfectible en toutes circonstances envers Barahir et ses parents, en gage de quoi il offrit son anneau à Barahir. Celui-ci, devenu de droit le seigneur de la maison de Beor, rentra au Dorthonion. Mais la plupart des siens abandonnèrent leur foyer et cherchèrent refuge derrière l'enceinte du Ithlum. L'assaut de Morgoth fut si considérable que Fingolfin et Fingon ne purent venir au secours des fils de Finarfin. Et les armées du Ithlum furent refoulées avec de lourdes pertes jusqu'aux forteresses des Eredwethrin, qu'ils eurent grand-peine à défendre contre les orques. Au pied des murs d'Eithel Sirion, protégeant l'arrière-garde de son seigneur Fingolfin, tomba Ador aux cheveux d'or, âgé de 66 ans. Et Gundor, son fils cadet, tomba à ses côtés, transpercé de nombreuses flèches. Et les elfes les pleurèrent. Lors, Galdor le Grand succéda à son père comme chef. Et grâce aux remparts des montagnes ombreuses qui firent obstacle aux torrents de feu, et par la valeur des elfes et des hommes du Nord, que ni Orc ni Balrog ne pouvaient encore abattre, le Ithlum demeura invaincu, menaçant le flanc des armées de Morgoth. Mais Fingolfin fut séparé de ses semblables par un océan d'ennemis. Car la guerre avait mal tourné pour les fils de Fëanor. Presque toutes les marches orientales étaient prises d'assaut. Le col d'Aglon fut forcé, bien qu'il en coûtât cher aux armées de Morgoth, et Celegorm et Curufin durent s'avouer vaincus et fuirent au sud et à l'ouest par les marches du Doriath avant de chercher refuge à Nargothrond auprès de Finrod Felagund. Ils se trouvèrent ainsi à grossir les rangs de Nargothrond, mais ils auraient mieux fait, comme on le vit plus tard, de demeurer dans l'est auprès de leurs frères. Maedros accomplit des exploits d'une hardiesse insurpassable, et les orques fuyaient à son approche. Car depuis le tourment qu'il avait enduré sur le Thangorodrim, son esprit brûlait en lui comme une flamme blanche, et il était tel un être revenu d'entre les morts. Ainsi, la grande forteresse sur la colline de Himring ne put être conquise, et nombre de valeureux survivants, tant des gens du Dorthonion que des marches orientales, y rallièrent Maedros. Et pour un temps, il referma le col d'Aglon, si bien que les orques ne purent entrer en Beleriand par ce chemin. Mais ils submergèrent les cavaliers du peuple de Fëanor sur Lothlan, car Glaurung vint de ce côté, et il passa la brèche de Maglor et dévasta tout le pays situé entre les bras du Gellion. Et les orques prirent la forteresse sur les pentes occidentales du mont Rerir et ravagèrent tout le Thargelion, le pays de Calanthir. Et ils souillèrent le lac Elevorn. De là, ils franchirent le Gellion par la terreur et par le feu et pénétrèrent très avant en Beleriand de l'Est. Maglor alla rejoindre Maedros au sommet du Himring, mais Calanthir prit la fuite et joignit les débris de son armée au peuple dispersé des chasseurs Amrod et Amras, et tous se retirèrent au sud de Ramdal. Ils montèrent la garde sur Lamon Ereb, où ils laissèrent quelques troupes, et reçurent l'aide des elfes verts. Et les orques n'entrèrent pas en Osiriand, ni à Taur Imdouinath, et dans les terres sauvages du sud. Or, le Ithlum apprit bientôt la prise du Dorthonion, la défaite des fils de Finalfin, et la déroute des fils de Fëanor boutés hors de leurs terres. Alors Fingolfin vit, ou crut voir, approcher la ruine complète des Noldor, et la chute irrémédiable de toute leur maison. Et dans un accès de colère et de désespoir, il enfourcha Rocalor, son grand coursier, et s'enfuit seul, car nul n'eût pu le retenir. Il traversa Dornu Fauglith comme un tourbillon de poussière, et tous ceux qui l'aperçurent le fuirent, éperdus, croyant qu'Oromé lui-même était venu. Car une rage folle l'avait saisi, à tel point que ses yeux brillaient comme ceux des Valar. Il se présenta donc seul aux portes d'Angband et sonna de son corps, et il frappa de nouveau aux portes des Reins, défiant Morgoth à venir l'affronter en combat singulier. Et Morgoth vint. Ce fut la dernière fois qu'il passa les portes de sa forteresse au cours de ses guerres. Et l'on dit qu'il accepta volontiers le défi, car bien que sa puissance surpassât toutes les autres en ce monde, seul entre tous les Valar, il connaissait la peur. Mais il ne pouvait à présent se dérober au défi sous les yeux de ses capitaines, car le roc résonnait de l'appel strident du corps de Fingolfin, et sa voix parvenait claire et perçante jusqu'au tréfonds d'Angband. Et Fingolfin le honnit, le traitant de lâche et de maître d'esclaves. Morgoth vint donc, lent à émerger de son trône souterrain, et la rumeur de ses pas était comme un tonnerre des profondeurs. Et il se présenta vêtu d'un harnais noir. Et il se dressa devant le roi, telle une tour couronnée de fer, et son grand écu, de sable sans blason, jetait sur lui une ombre comme un nuage noir. Mais Fingolfin scintillait telle une étoile sous la nuée, car son haubert était couvert d'argent et son écu azur serti de cristaux, et il tira son épée Ringil au miroitement de glace. Lors, Morgoth leva Grond, le marteau des enfers, en l'air et l'abattit au sol comme un foudre. Mais Fingolfin se jeta de côté et Grond ouvrit un grand trou dans la terre d'où surgirent flammes et vapeurs. Maintes fois, Morgoth tenta de l'atteindre, et chaque fois, Fingolfin l'évitait d'un bond, tel l'éclair jaillissant sous un ciel orageux. Et il blessa Morgoth de 7 blessures, et 7 fois Morgoth hurla de douleur. Sur quoi, les armées d'Angband se jetaient à terre de désarroi, et toutes les terres du Nord retentissaient de son cri. Mais le roi à force se fatigua, et Morgoth l'écrasa de son écu. 3 fois il fut mis à genoux, et 3 fois se releva, soulevant son écu brisé et son aume fendu. Mais autour de lui, le sol fissuré était criblé de trous, et il trébucha et tomba à la renverse aux pieds de Morgoth. Et Morgoth posa le pied gauche sur son cou, et il avait le poids d'une montagne qui s'écroule. Néanmoins Fingolfin, d'un dernier coup désespéré, lui taillada le pied avec Ringil, et son sang noir et fumant se déversa, et remplit les crevasses créées par Grond. Ainsi mourut Fingolfin, grand roi des Noldor, le plus fier et le plus vaillant des rois elfes de jadis. Les orques ne se targuèrent pas de ce duel devant les portes, et les elfes ne l'ont pas mis en chant, tant leur tristesse est grande. Le récit n'en est pas moins connu encore aujourd'hui, car Thorondor, roi des aigles, apporta la nouvelle à Gondolin et dans le lointain Ithlum. Et Morgoth saisit le corps du roi elfe et le brisa, et il l'eut jeté en pâture à ses loups. Mais Thorondor descendit en hâte de son air parmi les sommets des Clis Aegrim, et il plongea sur Morgoth et le défigura. Le battement de ses ailes était comme la rumeur des vents de Manwë, et il saisit le corps dans ses puissantes serres et remonta d'un trait au-dessus des flèches des orques, emportant le roi. Il le déposa au faîte d'une montagne qui regardait au sud, vers la vallée cachée de Gondolin. Et Turgon alla y construire un grand cairn sur la dépouille de son père. Nul orque n'osa plus jamais fouler le mont de Fingolfin ou s'approcher de sa tombe jusqu'à ce que le destin de Gondolin fût scellé et que la traîtrise naquît parmi les siens. Dès lors, Morgoth boita toujours du pied gauche et il ne put jamais se défaire de la douleur de ses blessures. Et sur son visage se voyait la balafre que Thorondor lui avait infligée. Il y eut force lamentation au Ithlum quand la chute de Fingolfin fut connue. Et Fingon, le cœur lourd, prit la suzeraineté de la maison de Fingolfin et du royaume d'Enoldor. Mais son jeune fils, Ereignon, que l'on surnomma plus tard Gil-galad, fut envoyé au Havre. L'ombre du pouvoir de Morgoth s'étendait à présent sur les terres du Nord. Or Barahir refusait de fuir le Dorthonion et il y demeura, disputant chaque parcelle de terre à ses ennemis. Alors Morgoth pourchassa ses hommes jusqu'à la mort et ils furent décimés. Et toute la forêt du versant nord de ce pays devint peu à peu une région d'épouvante et de sombres maléfices où les orques eux-mêmes ne voulaient entrer, sinon de toute nécessité. Et on la surnomma Del Duath et Tar Nufuin, la forêt sous la nuit. Les arbres qui y poussèrent après l'incendie étaient noirs et sinistres, et leurs racines, emmêlées, tâtonnaient dans le noir comme des mains griffues. Et ceux qui s'aventuraient de ce côté y perdaient la vue et leur chemin, étranglés par des spectres d'horreur ou poursuivis jusqu'à la démence. Enfin, Barahir se trouva en si mauvaise posture qu'Emeldir au cœur d'homme, son épouse, qui préférait se battre aux côtés de son fils et de son mari plutôt que de fuir, rassembla toutes les survivantes et leurs enfants et arma toutes les volontaires. Et elle les conduisit à travers les montagnes sur leurs arrières et par de périlleux chemins, dans la misère et dans la perte, jusqu'à Brethil. Certaines furent recueillies par les Haladin, mais d'autres passèrent les montagnes jusqu'au Dor Lomin, parmi les gens de Galdor, fils de Hador. Et de ce nombre étaient Rian, fille de Belégund, et Morwen, surnommée Elédwen, le lustre des elfes, la fille de Baragund. Mais aucune d'entre elles ne revit jamais les hommes qu'elles avaient quittés, car ceux-ci furent tués, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'enfin Barahir n'eut plus qu'une douzaine d'hommes, son fils Beren, et Barahir et Belégund ses neveux, les fils de Bregolas, et neuf autres fidèles serviteurs de sa maison, dont les champs d'Enoldor ont longtemps conservé la mémoire. Radruin et Dairuin étaient de ceux-là, et Dagnir et Ragnor, Gildor et Gorlim le malheureux, Arthad et Urthel, et Athaldir le jeune. Ils devinrent des hors-la-loi et des forcenés, une bande de désespérés qui ne pouvaient fuir ni ne voulaient céder, car leur demeure était détruite, leurs femmes et leurs enfants capturés, massacrés ou enfuis. Du Ithlum ne vint aucune aide ni aucune nouvelle, et Barahir et ses hommes furent traqués comme des bêtes sauvages, et ils se retirèrent dans la haute lande au-dessus de la forêt, errant parmi les lacs et les déserts rocheux de cette région, au plus loin des espions et des sorts de Morgoth. La bruyère était leur lit, et le ciel nuageux leur toit. Près de 2 ans après la Dagor Bragolac, les Noldor défendaient encore le passage de l'ouest proche des sources du Sirion, car le pouvoir d'Ulmo résidait en ses eaux, et Minas Tirith résistait aux orques. Mais il vint un jour où, après la chute de Fingolfin, Sauron, le plus grand et le plus terrible des serviteurs de Morgoth, qui dans la langue sindarine se nommait Garthaur, s'éleva contre Orodreth, gardien de la tour de Tol Sirion. Sauron était désormais un sorcier au pouvoir terrifiant, maître des ombres et des fantômes, ignoble dans sa sagesse, cruel dans sa puissance, déformant tout ce qu'il touchait, altérant ce qu'il dominait, le seigneur des loups-garous. Son empire était la souffrance. Il prit d'assaut Minas Tirith alors qu'un sombre nuage s'abattait sur ses défenseurs saisis d'épouvante. Et Orodreth fut repoussé et s'enfuit à Nargothrond. Lors, Sauron en fit une tour de guet au profit de Morgoth, un avant-poste du mal et une menace. Et la belle île de Tol Sirion devint un lieu maudit, et on l'appela Tol In Gauroth, l'île des loups-garous. Aucun être vivant ne pouvait emprunter cette vallée et échapper à la vue de Sauron dans la tour où il siégeait. Et Morgoth tenait à présent le passage de l'ouest, et son règne de terreur gagna les prés et les forêts du Beleriand. Il poursuivit ses ennemis avec acharnement jusqu'au-delà du Hithlum, cherchant à découvrir leurs repères et s'emparant de leurs forteresses l'une après l'autre. Les orques, toujours plus hardis, couraient le pays à leur gré, descendant le Sirion à l'ouest et le Kelon à l'est, encerclant le Doriath. Et ils battaient les terres en causant de tels ravages qu'oiseaux et bêtes fuyaient à leur approche. Et le silence et la désolation s'étendirent peu à peu depuis le nord. Ils capturèrent bon nombre de Noldor et de Sindar et les emmenèrent à Angband, où ils furent réduits en esclavage, contraints de mettre leur habileté et leur savoir au service de Morgoth. Et Morgoth envoya ses espions, revêtus de faux semblants. Leurs paroles étaient trompeuses et leurs promesses perfides assurant récompense. Et ils cherchaient par la ruse à éveiller la peur et la jalousie entre les peuples, accusant leurs rois et leurs chefs de convoitise et de traîtrise les uns envers les autres. Et à cause de la malédiction du massacre fratricide à Alqualondë, l'on crut souvent ces mensonges. Et du reste, à mesure que l'époque s'assombrissait, elle gagnait une part de vérité, car les cœurs et les esprits des elfes du Beleriand étaient de plus en plus troublés par le désespoir et la peur. Mais ce que les Noldor craignirent toujours par-dessus tout, c'était la traîtrise de leurs propres semblables, de ceux qui avaient été esclaves à Angband. Car Morgoth les mettait parfois au service de ses maléfiques desseins et, feignant de leur rendre la liberté, les relâchait. Mais leur volonté était enchaînée à la sienne, et ils ne s'en détournaient que pour mieux revenir à lui ensuite. Si donc certains captifs s'échappaient véritablement et retournaient parmi leurs semblables, ils étaient mal accueillis et erraient en proscrit dans la solitude et le désespoir. Envers les hommes qui voulaient bien entendre ces messages, Morgoth affecta la pitié, disant que leur malheur n'était dû qu'à leur servitude vis-à-vis des Noldor rebelles, mais qu'entre les mains du légitime seigneur de la Terre du Milieu, ils seraient honorés et récompensés à leur juste valeur s'ils cessaient de se rebeller. Mais au sein des trois maisons des Edain, ils ne s'en trouvaient guère pour lui prêter oreille, pas même lorsqu'ils étaient livrés aux tourments d'Angband. Ce pourquoi Morgoth les pourchassait avec haine et il envoya ses messagers au-delà des montagnes. On raconte que, à cette époque, les hommes bistrés entrèrent en Beleriand. D'aucuns étaient déjà secrètement sous l'empire de Morgoth et vinrent à sa demande. Mais pas tous, car la rumeur du Beleriand, ses terres et ses eaux, ses guerres et ses richesses, avait alors couru très loin. Et en ces jours d'errance des hommes, leurs pas étaient toujours portés vers l'ouest. Ces hommes étaient courts et trapus, avec de longs bras puissants. Leur peau était bistrée ou cireuse, et leurs cheveux étaient sombres ainsi que leurs yeux. Leurs maisons étaient nombreuses, et certains préféraient les nains des montagnes aux elfes. Mais Maedros, sachant la faiblesse des Noldor et des Edain, tandis que les fosses d'Angband semblaient intarissables de réserves, voire perpétuellement renouvelées, s'allia à ces nouveaux venus, et il offrit son amitié au plus grand de leurs chefs, Bor et Ulfang. Et Morgoth en fut bien aise, car il l'avait voulu ainsi. Les fils de Bor étaient Borlad, Borlak et Borthand. Ils suivirent Maedros et Maglor et trompèrent l'espoir de Morgoth et restèrent fidèles. Les fils d'Ulfang le Noir étaient Ulfast et Ulvarth et Uldor le Maudit. Ils suivirent Caranthir et lui prêtèrent serment et le trahirent. Il n'y avait guère d'amitié entre les Edain et les Orientais, et ils se croisaient rarement, car les nouveaux venus demeurèrent longtemps en Beleriand de l'Est, mais Ador et les siens restaient confinés au Hithlum, et la maison de Beor était presque détruite. Le peuple de Haleth avait d'abord été épargné par la guerre qui déchirait le nord, car il vivait au sud, dans la forêt de Brethil. Mais ils combattaient à présent les envahisseurs orques, car c'étaient des hommes de courage, et ils n'eussent pas délaissé si facilement les bois qu'ils aimaient. Et dans le conte des défaites de cette époque, les exploits des Haladins sont célébrés avec honneur. Car après la prise de Minas Tirith, les orques traversèrent le passage de l'ouest et eussent peut-être sévi jusqu'aux bouches du Sirion. Mais Halmir, seigneur des Haladins, dépêcha un message à Thingol car il avait l'amitié des elfes faisant sentinelle aux frontières du Doriath. Lors, Beleg, dit l'Arc de Fer, capitaine des gardes frontaliers de Fingol, mena un fort contingent de Sindar armé de haches jusqu'à Blefil. Et surgissant des profondeurs de la forêt, Almir et Beleg prirent une légion d'orques à l'improviste et l'anéantirent. Dès lors, la marée noire venue du nord fut endiguée dans la région, et les orques n'osèrent plus franchir le Teiglin pendant maintes années. Le peuple de Haleth se maintint dans une paix vigilante en la forêt de Blefil, tandis que sur ses arrières, le royaume de Nargothrond profitait d'un répit et rassemblait ses forces. Húrin et Uor, les fils de Galdor du Dorlomine, vivaient en ces temps-là parmi les Haladin, car ils leur étaient apparentés. Avant la Dagor Bragolac, ces deux maisons de Edain s'étaient réunies lors d'une grande fête, au cours de laquelle Galdor et Gloredel, enfants de Hador chef doré, avaient épousé Areth et Aldir, ceux-là enfants de Halmir, seigneur des Haladin. Ainsi, les fils de Galdor furent-ils élevés à Brethil par Aldir leur oncle, selon la coutume des hommes à cette époque. Et tous deux prirent part à cette bataille contre les orques, même Uor, car nul n'avait pu l'en dissuader, bien qu'il n'eût alors que 13 ans. Mais lorsque leur compagnie se trouva coupée des autres, ils furent pourchassés jusqu'au gué de Brithiac, et ils y eussent été pris ou tués sans l'intervention d'Ulmo, qui gardait un pouvoir sur le Sirion. Un brouillard se leva sur le fleuve qui les dissimula à leurs ennemis, et ils fuirent par le Brithiac et pénétrèrent au Dimbar, où ils errèrent parmi les collines sous les hautes murailles des Clis Aeglim, jusqu'à se perdre dans les méandres du pays, sans plus savoir où ils allaient, ni d'où ils étaient venus. C'est là que Thorondor les aperçut, et il envoya deux de ses aigles à leur secours. Et les aigles les soulevèrent et les portèrent au-delà des montagnes encerclantes, jusqu'au val secret de Toumladen et à la cité cachée de Gondolin, qu'aucun homme n'avait encore vue. Là, le roi Turgon leur fit bon accueil dès qu'il apprit leur parenté, car des messages et des rêves lui étaient venus par le Sirion depuis la mer, envoyé par Ulmo, le seigneur des eaux, l'avertissant d'un malheur proche et lui conseillant de traiter avec bienveillance les fils de la maison de Hador qui pourraient lui venir en aide au besoin. Húrin et Uor furent hôtes en la demeure du roi pendant près d'un an. Et l'on dit que durant ce séjour, Húrin acquit un grand savoir auprès des elfes, mais qu'il saisit aussi une part des conseils et des desseins du roi. Car Turgon se prit d'affection pour les fils de Galdor et s'entretint longuement avec eux. Et c'était en vérité par amour qu'il souhaitait les garder à Gondolin, et non seulement à cause de sa loi voulant qu'aucun étranger, fût-il elfe ou homme, ayant trouvé la voie du royaume secret et contemplé la cité, ne put en repartir jamais, que le roi n'eût ouvert son enceinte et que le peuple caché n'en sortît. Mais Húrin et Uor désiraient retourner parmi les leurs et avoir part aux guerres et aux souffrances qui alors les assaillaient. Et Húrin dit à Turgon, « Seigneur, nous ne sommes que des hommes mortels et différents des Eldar. Ceux-ci peuvent souffrir de longues années à attendre le jour où ils affronteront leurs ennemis. Mais pour nous le temps est compté, et flétrit rapidement nos espoirs et nos forces. Et le chemin de Gondolin, nous ne l'avons point découvert. D'ailleurs, nous ne savons pas très bien où se trouve cette cité, car on nous y a menés par la voie des airs, à notre grande stupéfaction, et on nous a fait la grâce de nous bander les yeux. » Lors, Turgon accéda à sa prière, et il dit, « Vous êtes libre de partir comme vous êtes venu, si Thorondor y consent. Cette séparation me chagrine, mais avant peu de temps, aux yeux des Eldar, nous pourrions nous retrouver. » Mais Maeglin, son fils de sœur, lequel était puissant à Gondolin, ne se troubla nullement de les voir partir, encore qu'il leur disputât la faveur du roi, car il n'avait d'amour pour aucun de la race des hommes. Et il dit à Húrin, « La grâce du roi est plus grande que vous ne le croyez, et la loi est aujourd'hui moins sévère que par le passé, sans quoi vous n'auriez d'autre choix que de rester ici jusqu'à la fin de vos jours. » Lors, Húrin lui répondit, « La grâce du roi est certes grande, mais si notre parole ne te suffit pas, nous prêterons serment devant toi. » et les frères jurèrent de ne jamais révéler les conseils de Turgon et de taire tout ce qu'ils avaient vu en son royaume. Puis ils prirent congé de lui, et les aigles vinrent à la nuit et les emportèrent, et ils les déposèrent au Dorlomine avant l'aube. Leurs proches se réjouirent de les voir, car des messagers de Brethil avaient rapporté leur disparition. Mais ils ne voulurent dire même à leur père où ils étaient allés, sinon qu'ils avaient été secourus dans les terres sauvages par les aigles qui les avaient ramenés. Mais Galdor dit « Êtes-vous donc resté un an dans la nature? Où les aigles vous ont-ils logé dans leurs aires? Mais vous avez trouvé de la nourriture et de beaux vêtements, et vous rentrez comme de jeunes princes, non comme des sauvageons. » Et Urin répondit « Soyez contents de nous voir revenus, car c'est en jurant de garder le silence que nous en eûmes la permission. » Après quoi Galdor ne les questionna plus, mais lui et bien d'autres devinèrent la vérité. Et avec le temps, l'étrange aventure de Urin et War parvint aux oreilles des serviteurs de Morgoth. Or, quand Turgon apprit la rupture du blocus d'Angband, il ne put souffrir qu'aucun des siens allât à la guerre, car à ses yeux, Gondolin était forte, et l'heure de sa révélation n'était pas encore venue. Mais il croyait aussi que la fin du siège était le présage de la chute des Noldor, à moins d'obtenir des renforts. Et il envoya des compagnies secrètes aux bouches du Sirion et à l'île de Balar. Là, ces Gondolindrim construisirent des navires, et ils firent voile dans l'ouest absolu, envoyés par Turgon en quête du Valinor, afin d'y chercher le pardon et le secours des Valar. Et ils implorèrent les oiseaux marins de les guider. Mais les mers étaient vastes et indomptées, et l'ombre et l'enchantement s'étendaient sur elles, et le Valinor restait caché. Ainsi, aucun des messagers de Turgon ne parvint dans l'ouest, et maints d'entre eux périrent, et quelques-uns seulement revinrent. Et cependant, le destin de Gondolin approchait. Morgoth eut vent de ces choses, et l'inquiétude assombrit ses victoires, et il souhaita ardemment obtenir des nouvelles de Felagund et de Turgon, car ils avaient disparu on ne savait où, pourtant ils n'étaient pas morts, et il redoutait les actions qu'ils pouvaient encore mener contre lui. De Nargothrond, il connaissait en effet le nom, mais non l'endroit ni l'effectif. Et de Gondolin, il ne savait rien, et Turgon le préoccupait d'autant plus. Ainsi, il envoyait toujours plus d'espions en Beleriand, mais il rappela le gros de ses armées d'orques à Angband, car il sentait qu'il ne pourrait livrer une bataille décisive et victorieuse avant d'avoir rassemblé de nouvelles forces, et qu'il n'avait pas correctement mesuré la valeur des Noldor ni la vertu guerrière des hommes qui combattaient à leur côté. Si grande avait été sa victoire lors de la Bragolac, et au cours des années suivantes, et si graves les dommages causés à ses ennemis, ses pertes à lui n'avaient pas été moindres. Et s'il tenait le Dorthonion et la passe du Sirion, les Eldar se remettaient du choc initial et commençaient à reprendre ce qu'ils avaient perdu. Ainsi le sud du Beleriand retrouva-t-il un semblant de paix pour quelques brèves années, mais les forges d'Angband redoublèrent d'activité. Quand 7 années eurent passé depuis la 4e bataille, Morgoth renouvela ses assauts, et il envoya une grande force contre le Ithlom. L'attaque des cols des montagnes ombreuses fut redoutable, et Galdor le Grand, seigneur de Dorlomine, tomba lors du siège d'Eithel Sirion, percé d'une flèche. Il défendait cette forteresse au nom du grand roi Fingon. Son père Ador Lorindol y était mort peu de temps auparavant. Urin, son fils, venait d'atteindre l'âge d'homme, mais une grande force était sienne, tant de corps que d'esprit, et il chassa les orques des Eredwethrin avec grand massacre et les poursuivit très avant sur les sables d'Anfoglith. Mais le roi Fingon eut fort à faire pour repousser l'armée d'Angband qui descendait du nord, et le combat s'engagea sur les plaines mêmes du Ithlom. Là, Fingon fut submergé par un adversaire supérieur en nombre, mais Círdan remonta l'estuaire du Drengist avec grand renfort de navires, et au moment décisif, les elfes du Falas s'abattirent sur le flanc ouest des troupes de Morgoth. Lors, les orques se débandèrent et s'enfuirent, et les Eldar eurent la victoire, et leurs archers à cheval les poursuivirent jusque dans les montagnes de fer. Dès lors, Urin, fils de Galdor, dirigea la maison de Hador aux Dorlomines et servit Fingon. Urin était de moindre stature que ses pères, ou plus tard que son fils. Mais il était infatigable et d'une grande endurance, leste et vif, à l'image des parents de sa mère, Areth des Aladin. Son épouse était Morwen Eledwen, fille de Baragund de la maison de Beor, elle qui fuit le Dorthonion avec Rian, fille de Belegund, ainsi qu'Emeldir, la mère de Beren. À la même époque, les hors-la-loi du Dorthonion furent anéantis, comme il est raconté ci-après. Et Beren, fils de Barahir, seul en réchappa, et parvint tout juste au Doriath.